Bonjour.
Bonjour, sœur.
Serait-ce sœur Odile ?
Oui, c'est ça.
Bonjour, sœur Odile.
Bonjour, merci.
On peut entrer ?
Bonjour, merci.
Dans votre monastère ?
Mais oui. Comme vous voyez, il y a beaucoup de portes et qui sont fermées à clé parce que...
Je vous serre la main, sœur Odile. Je suis heureux de vous rencontrer. Je vous présente François Tess qui réalise le documentaire.
C'est ça, oui. Oui.
Et avec nous, donc, Patrick Maillot, que vous connaissez, qui est le, un des médecins de l'endroit.
Un peu, je le connais un peu.
Oui, un peu.
Je referme parce que la peur...
André Gondet, mon grand-oncle résistant, par Dominique Prusac et François Test.
Mais enfin, comme ça, on va...
Second épisode, la fin du maquis.
Donc, un peu, donc...
Où sommes-nous ici, sœur Odile ?
Alors, nous sommes dans... Ce bâtiment-là.
Oui, dans ce bâtiment.
Ben, c'est le lieu de vie de Mère Yvonne Aimée. Et au fond, même cette partie-là a été construite sous son impulsion. Parce que quand elle est arrivée à Malétroit, en 1922, beaucoup de ces bâtiments n'existaient pas.
Vous parlez de sœur Yvonne Aimée, c'est la grande résistante, alors.
Ah oui, c'est ça. Ben oui, sœur Yvonne Aimée, oui. Sœur Yvonne, oui. Alors, vous avez là son portrait, hein.
Donc elle nous protège dès que nous arrivons.
Oui.
Au fond, Yvonne Aimée est-elle donc la supérieure de la communauté de Malétroit, la communauté des Augustines. Et les sœurs Augustines, ce sont des hospitalières, c'est-à-dire des soignantes. Donc elle tenait une clinique qui était à l'époque ultra-moderne, fondée par Yvonne Aimée. Et... quand il y a eu les premiers parachutages des hommes de la France libre qui ont sauté sur la Bretagne, certains se sont mal réceptionnés et ont été blessés. Donc, ils ont été soignés ici, à la clinique, avant le combat de Saint-Marcel. Et puis, il y a eu aussi les jeunes FFI qui n'étaient pas formés à l'armement, et qui se sont blessés involontairement, et ils ont été également soignés ici, donc ceci avant la bataille du 18 juin.
Comme la supérieure, sœur Yvonne Aimée de Jésus, les Bretons ont été nombreux à résister. Chacun à leur façon. André Gondet, le grand-oncle de Stéphanie Trouillat, a été l'un d'eux. Il a rejoint le maquis de Saint-Marcel. Un rassemblement de combattants qui a résisté aux Allemands jusqu'au bout. Jean-Claude Guil, vous êtes un peu la mémoire de Saint-Marcel, m'a-t-on dit. Toute votre famille habite ici depuis longtemps. Vous aviez quel âge à l'époque du maquis de Saint-Marcel, vous ?
Écoutez, en juin 1944, j'avais 5 ans.
Alors qu'est-ce qui se passe cette fameuse nuit où les Allemands investissent le maquis ?
D'abord, ça commence par le 17 juin au soir. La Royal Air Force va parachuter environ 100 conteneurs sur la gare du Roc-Saint-André, c'est-à-dire à 10 km d'ici. Et c'est ça qui va éveiller complètement, les troupes allemandes, en se disant qu'il se passe des choses complètement anormales. C'est là que la première attaque va se produire. Les deux tractions de la Feldgendarmerie de Ploermel pénètrent à l'intérieur du camp et les maquisards donc vont tuer. Il y a 4 occupants dans chaque véhicule. Les maquisards vont tuer 4 Allemands. Ils vont en blesser 3 autres et un va réussir à s'échapper et fatalement il va y avoir des représailles.
Alain Papasoff, parachutiste SAS, Archivina, juin 2004.
Moi, je me souviens, par rapport à la nouette au nord, le long d'un talus avec quelques FFI et puis un Bren Gun. Et on a vu arriver des Allemands qui... je dirais pas la fleur au fusil, mais en sifflant, mais littéralement presque, ils n'avaient même pas l'arme à la main pour venir vers nous. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pour ça qu'ils ont eu tellement de dégâts dans les premières heures. Ils sont venus de la région de Saint-Marcel, de Ploermel, et puis là, Bourgoin a fait demander la chasse. La chasse est intervenue, les Spitfire et autres, sur les convois qui arrivaient de Rennes. Donc ça a retardé un petit peu, et puis la bagarre a continué tout du long, bien sûr, mais enfin, ça a avancé, ça a reculé, ça a été repris.
Et donc, au fur et à mesure, les renforts arrivent, donc il y a plusieurs séries d'attaques, les soldats allemands sont de plus en plus nombreux, mais les résistants et les parachutistes réussissent à tenir
Stéphanie Trouillard
jusqu'à la fin de la journée, mais voilà, ça devient, l'opposition devient trop forte. Donc c'est à ce moment-là qu'est décidée la dispersion du camp du maquis de Saint-Marcel. Et donc ils font sauter notamment les munitions qui se trouvent ici en fin de journée. Et l'ordre est donné aux maquisards de rejoindre leur village habituel. Et les officiers parachutistes, l'état-major, lui, se rend en direction de la ville de Calac. Mais voilà, il y a une dispersion du maquis parce que c'est plus possible de tenir à ce moment-là.
Ça a duré jusqu'à la nuit, où on a pu décrocher en passant par le secteur qui n'était pas fermé, du côté de l'abbaye, en direction de Carnac. Il faisait une nuit noire, il tombait des cordes. Moi, je mettais la main sur un camarade qui était devant moi pour faire une chaîne, pour pouvoir, dans la nuit noire, en pleine forêt, avec tout ce qui tombait, réussir à se sauver.
Et votre grand-oncle ?
Alors, à la suite de ces combats, mon grand-oncle est resté avec des groupes de parachutistes de la France libre et d'autres résistants. Et ils sont partis se réfugier, notamment dans le village de Guéhenno, le village où lui-même s'était caché lorsqu'il est rentré dans la résistance.
Et votre famille, que devient-elle lors de l'invasion du maquis par les Allemands ?
Le midi, vers 14h30, avec mon frère, on se réfugie chez le grand-père un peu plus bas. Et donc papa reste avec ma petite sœur et maman, et pensant que les Allemands ne les auraient pas forcément tirés dessus, dans la mesure où c'était un personnel civil. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le colonel Bourgoin, vers minuit, lève l'ancre et ordonne l'arrêt des combats et que chacun se réfugie au maximum par petits groupes pour s'étaler sur le territoire.
Ça, c'est le dimanche 18, hein ?
Oui, le dimanche 18 juin. Et le 19 juin au matin, très tôt le matin, alors une fameuse compagnie géorgienne investigue le village d'Erdibelek où nous habitions. Et là, papa décide d'ouvrir la porte puisqu'il cogne à la porte. Il y a trois femmes, il y a deux jeunes enfants, et il ouvre la porte pour dialoguer. Là, il se fait fusiller en pleine poitrine par les fameux Géorgiens, qui vont tuer également un jeune de 14 ans et demi, qui est dans la salle, et la grand-mère Ayoul, donc, qui vivait sur son lit. Elle était impotente et aveugle, 83 ans, qui sera fusillée dans le même... ordre d'idée. C'est le commencement des représailles.
Hein. Et là, Jean-Claude Guil, les Allemands mettent le feu à toutes les fermes, les maisons, après avoir tout pillé.
Oui, ils mettent le feu. Oui, ils mettent le feu. Toutes les fermes sont brûlées dans la semaine, là. Et le dimanche après, ils mettent le feu au bourg de Saint-Marcel. Et l'intégralité, la quasi-intégralité du bourg sera brûlée. Voilà.
Et vous revenez quand chez vous alors ?
On revient au mois d'août, après l'armée de la libération. Ouais. On n'avait plus rien, on n'avait plus de papa, on n'avait plus d'animaux, tout avait été brûlé et détruit.
Quelque part, c'est une petite victoire ?
C'est une victoire psychologique, importante, symbolique, parce que c'est la première fois qu'on a une opposition en France occupée entre des résistants, donc là épaulés par les parachutistes, et les soldats allemands. Donc ça montre que les Français sont aussi capables de s'opposer. Donc ça, c'est un symbole très important, cette bataille, parce qu'ils ont tenu, en fait. Donc c'est ni une victoire ni une défaite, mais ils ont tenu cette journée-là. Donc c'est une date importante et ça a été le plus grand maquis breton. Et c'est vrai qu'on en parle moins, il a peut-être moins eu de publicité que d'autres maquis en France. Mais voilà, ça a été un moment important avec ce rassemblement et ces combats avec, il faut le rappeler, des résistants qui étaient très peu fermés, qui avaient seulement voilà, leur courage en bandoulière.
Bougeard, le maquis est donc détruit, tout le monde s'en va, les hommes décrochent, ils se réfugient où ?
Alors, ces FFI et ces maquisards se dispersent dans les campagnes environnantes de Saint-Marcel, sont hébergés et cachés dans les fermes. Il y a donc un appui de la population locale avec les risques que cela comporte. Et le problème, c'est que immédiatement, les Allemands vont déclencher la traque parce qu'ils veulent absolument prendre les chefs militaires des SAS, parce que pour eux, c'était aussi une surprise de voir des soldats sous uniforme se battre contre eux. Et donc, cette traque va durer plusieurs semaines et va avoir des conséquences dramatiques.
On parle souvent d'Oradour-sur-Glane, mais ce qui s'est passé en Bretagne est pratiquement équivalent, non ?
Alors, en Bretagne, il y a eu de nombreux petits Oradour-sur-Glane. Bon, le village de Saint-Marcel, bien sûr, a été incendié, a été en partie détruit. Mais de nombreuses fermes dans lesquelles s'étaient cachés des résistants ont aussi été incendiées. Et tout au long du retrait des troupes allemandes, que ce soit vers Brest, que ce soit vers l'Orient en juillet et août 1944, et au début août 1944, il y a des dizaines et des dizaines de civils qui sont tués, massacrés. Par exemple, pour prendre le cas de la base Sam-Ouest, l'autre base SAS des Côtes du Nord, la rafle de 31 personnes dans la région se solde par 31 fusillés près de Lamballe dans les Côtes du Nord le 13 juin 1944.
Stéphanie Trouillard, le maquis de Saint-Marcel est dispersé. Le 18 juin, les combattants partent dans la campagne et se retrouvent pour certains ici.
Alors ça a mis un certain temps, en fait, après Saint-Marcel. Effectivement, le mot d'ordre a été donné aux maquisards de rejoindre leur village d'origine. Mais certains ont continué d'accompagner les parachutistes dans la France libre, dont le capitaine Marienne. Et mon grand-oncle s'est retrouvé avec eux. Et pendant un certain temps, ils ont été dans le village de Guéhenneau, où ils avaient établi aussi un camp. Mais au fur et à mesure, ils ont senti qu'ils n'étaient plus forcément en sécurité là-bas, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une véritable chasse à l'homme après les combats du maquis de Saint-Marcel. Donc les Allemands, aidés par des collaborateurs français, se sont mis vraiment à les pourchasser, à vouloir à tout prix retrouver les parachutistes de la France libre et les maquisards qui avaient participé à la bataille de Saint-Marcel. Donc ils ont mis les moyens pour les retrouver dans la campagne du Morbihan. Et il y a eu un groupe d'hommes notamment qui travaillaient pour l'Abwehr, donc c'était les services de renseignement de l'armée allemande, des hommes qui ont été envoyés spécialement ici pour retrouver les parachutistes et les maquisards. Et se sachant voilà, pourchasser, ce groupe du capitaine Marienne a décidé le 11 juillet 1944 de se réfugier ici à Plumelec. Donc on se trouve dans un hameau avec quelques fermes, c'est le hameau de Kieruel. Et les agriculteurs locaux ont accepté de les héberger, mais en ayant la crainte qu'on arrive à les retrouver et qu'aussi on paye le prix. Et donc ils sont arrivés ici le 11 juillet. Mais ces hommes de l'Abwehr ont usé de subterfuges pour pouvoir les retrouver. Et la veille, ils sont allés dans ce fameux village de Guéhenno. Pour certains, ils avaient mis des équipements de parachutistes, des uniformes qu'ils avaient pris sur des parachutistes qu'ils avaient fait prisonniers. Ils se sont fait passer pour des résistants et ils ont demandé des informations pour savoir où se trouvait le groupe du capitaine Marianne.
Et on précise que c'est la bande de Zeller qui a organisé tout ça, qui a essayé de découvrir où étaient ces patriotes.
Oui, à la tête de ce groupe se trouvait Louis-Maurice Zeller. Il a d'abord été agent du SD, puis agent de l'Abwehr, et il s'est montré particulièrement efficace à pourchasser les réfractaires, les jeunes résistants. Et donc, de fil en aiguille, ces personnes qui étaient dans ce café à Guéhenno ont indiqué que le groupe de Pierre Marienne était venu se réfugier à Plumelec. Ils se sont rendus dans un autre endroit où on leur a confirmé qu'ils étaient à Kiruel. Et c'est comme ça qu'au petit matin du 12 juillet 1944, ils se sont retrouvés ici même.
Dans ces représailles des Allemands, il y a un individu pas très fréquentable qui les aide, un Français qui s'appelle Maurice Zeller.
Oui, alors l'efficacité redoutable des groupes de combat allemands dans la tracte des résistants et des parachutistes résulte de la participation de Français qui sont au service de l'occupant, qui sont des agents allemands, qui portent d'ailleurs l'uniforme allemand, qui souvent se déguisent en parachutistes SAS pour infiltrer justement les maquis ou repérer les hommes. Et parmi eux, le terrible Zeller, qui est un ancien officier de marine français, exclu de la marine nationale, collaborationniste, volontaire sur le front de l'Est dans la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, où il rencontre d'ailleurs Jacques Doriot, donc militant du PPF, le parti de Doriot, et surtout, dès 42 dans les Côtes du Nord, et en 43 et 44 dans le Finistère et dans le Morbihan, il va avec quelques complices qui sont à Saint-Marcel, Grosse et Munoz, il va participer à la traque des résistants et des parachutistes. C'est notamment l'affaire de la ferme de Kéruel, où là se trouvent le lieutenant Marienne et 7 ou 8 camarades qui vont être abattus, où se trouvent des résistants. 7 d'entre eux sont abattus et on va aussi exécuter 3 agriculteurs, 3 paysans qui ont hébergé ces combattants.
Et les résistants étaient d'un côté, les patriotes d'un côté, bretons, et les SAS, les parachutistes d'un autre côté. Ils n'étaient pas tous dans le même coin.
Ils n'étaient pas tous regroupés au même endroit, mais la tente du capitaine Marianne se trouvait un peu plus loin par ici. Les résistants étaient là sous un appentis à dormir et ils ont été vraiment pris au petit matin dans leur sommeil. Et la sentinelle n'a pas joué son rôle et c'est comme ça qu'ils ont été pris. Et ils pensaient qu'ils allaient être faits prisonniers. Et c'est ce qui a constitué un crime de guerre ici même. C'est parce qu'ils ont été fusillés directement alors qu'ils portaient, pour les parachutistes, des uniformes de l'armée française.
Et votre grand-oncle faisait partie des patriotes et résistants ici?
Oui, il dormait quand les Allemands sont arrivés. Donc il faisait partie d'un groupe de FFI. On retrouve leur nom sur ce monument, donc c'est particulièrement émouvant. C'était des résistants qui faisaient partie de son même groupe, donc de cette section de Plumelec. Donc il y avait Eugène Morizure, Henri Louaille, Emmanuel Le Breton, André Gondet, donc le nom de mon grand-oncle, Henri Denoual, Georges Grignon, Pierre Le Beaumain, Raymond Garot. Et à part Eugène Morizure, qui était plus âgé, c'était tous des jeunes d'une vingtaine d'années.
Je suis un peu ému. Pour la première fois de ce reportage, je me sens extrêmement ému.
C'est émouvant parce que c'est là qu'il a été tué. C'est un crime, c'est un massacre. Hein. C'est 18 personnes qui ont été tués ici au petit matin, devant des femmes et des enfants. Hein. Donc ils n'en sont pas pris aux femmes et aux enfants, mais ils ont assisté aussi à ce massacre qui s'est passé ici même. Et je trouve ça émouvant parce qu'il y a une cérémonie ici tous les ans qui a lieu aux abords du 12 juillet. Et les familles se réunissent encore. Et ma mère venait tous les ans avec son père pour honorer la mémoire de son oncle.
Et ici, Stéphanie, les patriotes, les résistants et les parachutistes ont été exécutés d'une façon ignoble.
Oui, ça s'est joué très vite. Alors visiblement, ils avaient donné l'ordre aux patriotes, aux résistants, de se coucher à terre sur le ventre. Et ils ont été exécutés dans le dos. Et quant aux parachutistes, ils ont été alignés contre le mur et fusillés. Et ça s'est passé vraiment en quelques minutes, une fusillade et la mort de 18 personnes.
Je pense que vous connaissez cette photo où les tueurs se vantent presque d'avoir tué ses combattants. Est-ce que vous pouvez décrire la photo, Christian Boujard ?
Oui, alors cette photo est tout à fait terrible, puisqu'on voit quatre hommes en civil et en armes, des Français, et donc le fameux Zeller, qui pose, triomphant, si on peut dire, devant des cadavres qui sont par terre et qui sont effectivement face à la terre. Et il s'agit sans doute de ces hommes qui ont été abattus en étant allongés. On les a contraints à s'allonger d'abord et on les a tués de cette manière-là. On a donc ainsi une image de cette barbarie, hein, pour reprendre le terme qui sera très utilisé après la guerre, qui est mis en œuvre par les Allemands, mais aussi par ses collaborationnistes français. Disons que Zeller sera jugé en 1946 à Rennes, condamné à mort et fusillé.
Dans cette histoire qui retrace une partie importante de la résistance bretonne, un musée a été créé à Saint-Marcel, à deux pas du maquis. Il nous replonge dans l'atmosphère de l'époque avec beaucoup d'objets authentiques, comme des armes, des véhicules, des photos aussi. Une démarche avant tout visuelle pour transmettre le combat contre l'occupant allemand.
La flèche ne percera pas est la phrase code diffusée le 5 juin qui déclenche le plan Tortue ou Bibendum.
Tristan Leroy, on peut voir ici ceux qui ont combattu à travers tous leurs costumes.
Voilà, exactement. On est ici au cœur du sujet, dans la salle dédiée spécifiquement au combat de Saint-Marcel, avec dans une grande vitrine tous les belligérants de la bataille, nos parachutistes SAS, nos maquisards. Les gendarmes sont représentés aussi parce que ça n'a pas été le cas partout en France, mais en ce qui concerne le Morbihan, les forces de l'ordre et en particulier les gendarmes ont fortement structuré et participé à la lutte clandestine. Et puis, évidemment, les agents de liaison, on présente une femme agent de liaison, puisque leur rôle est souvent oublié, mais a été essentiel dans le fonctionnement du maquis. Puis, évidemment, les soldats allemands, en particulier les parachutistes allemands, qui sont à Saint-Marcel pendant la bataille du 18 juin, qui va marquer la fin et le repli du maquis de Saint-Marcel.
Il y a un objet qui vous a touché plus particulièrement ?
On a des objets très émouvants, je pense, on n'est pas loin, puisque la vitrine est tout proche, à ces brodequins, qui sont des chaussures. Hein. Ces chaussures qui ont appartenu à Émile Bouettard, hein, ça nous ramène dans le Morbihan en juin 1944, puisque Émile Bouettard est le premier mort allié dans le cadre des opérations du débarquement, hein, puisqu'il fait partie du stick du lieutenant Marienne, qui est parachuté à Plumelec dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et Émile Bouettard est tué quelques instants après avoir touché le sol de France. Émile Bouettard, qui est un Breton, natif de Pluny-sur-Rance. Et donc c'est le premier soldat français, sinon allié, tué dans le cadre des opérations du débarquement dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et donc on a récupéré ces brodequins, donc ces chaussures, et la flamme tricolore marquée de la Croix de Lorraine dont étaient dotés les parachutistes et qui est encore tachée du sang d'Émile Bouettard. Donc évidemment, ce sont des objets particulièrement émouvant. Évidemment, en soi, c'est simplement une paire de chaussures et un fanion, mais évidemment, en creux, à travers ces objets, on devine la personnalité de leur propriétaire, si on peut dire, et surtout l'histoire qui lui est associée, qui est une histoire, en ce qui le concerne, à la fois héroïque et tragique.
Christian Boujard, quand on compare la population de la péninsule bretonne à celle de toute la France, y a-t-il eu plus de résistance en Bretagne qu'ailleurs ?
Alors, c'est un peu difficile à dire, on manque un petit peu de chiffres précis. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les formes de résistance se sont développées dès 1940 dans la région. Le nombre de volontaires de la France libre est très élevé. C'est la région de France qui a produit le plus de Français libres. On a toutes les formes de réseaux de renseignement, d'évasion par mer et de combat aussi, de sabotage, parce que les FTP sont très actifs à partir de 1942. Et donc, on peut considérer que la Bretagne est une grande région de résistance. Et d'ailleurs, la répression allemande en témoigne.
Jean-Claude Guil, vous reste-t-il en mémoire une image un peu frappante de votre histoire?
Peut-être ce mercredi 21 juin 1944, puisque j'étais réfugié sur Boal. J'ai passé la nuit du 18 juin au soir et du 19 juin sur Boal, chez des gens, et je vois maman arriver avec ma petite sœur dans les bras. J'ai dit, c'est bizarre, elle vient toute seule avec ma petite sœur, et elle a voulu cacher le fait horrible, mais je l'ai deviné tout seul, et ça a été terrible, n'est-ce pas?
Le fait, c'est votre père qu'on a assassiné, qu'on a tué.
Ouais. C'était le moment où j'étais incapable de pleurer. La douleur est tellement forte que c'est une grande souffrance. Voilà.
Stéphanie Trouillard, dans cette quête pour connaître l'histoire de votre grand-oncle, il y a différents lieux. Et ici, on se retrouve à Boal, encore une trace pour vous, pour la transmission, j'imagine.
Oui, on se retrouve devant le chemin André Gondet. Donc, il a été inauguré en 2017, à l'issue de mes recherches, parce que c'était important que son nom figure aussi dans l'espace public. Il y a son nom sur le monument aux morts et dans une plaque dans l'église, mais il n'y avait pas d'autre endroit pour honorer sa mémoire, et c'est le seul résistant de Boal à avoir perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est important, voilà, qu'il y a quelque chose qui rappelle son souvenir, et l'idée d'un chemin, le chemin des résistants, des maquisards, ça passe pas très loin de là où il est né, ça passe pas très loin de l'école où il était quand il était enfant.
Et pas un chemin en dur, c'est vraiment du sable, c'est vraiment la terre, quoi.
Ouais. Oui, c'est vraiment un chemin de terre. Et je trouvais ça beau aussi que ça passe juste devant son école. Et aujourd'hui, les enfants, quand ils viennent ici, là, vous avez le stade municipal, la salle de sport. Quand ils vont au sport, ils passent devant ce chemin André Gondet. Il y a ce panneau avec son visage et ces quelques paragraphes qui racontent son parcours. Parce qu'il ne faut pas seulement nommer les rues, les chemins au nom de quelqu'un, mais il faut expliquer aussi ce que représente son nom. Donc il y a son parcours pour rappeler aux jeunes d'aujourd'hui ce que ça a été la résistance et comment un jeune s'est engagé et a donné sa vie pour son pays. Et on a aussi obtenu la médaille de la résistance à titre posthume pour mon grand-oncle, parce que ma famille ne l'avait pas demandé. On peut encore le faire aujourd'hui, et en 2019 il a aussi reçu la médaille de la résistance.
C'était André Gondet, mon grand-oncle résistant. Second épisode, la fin du maquis. Merci à Stéphanie Trouillard, Patrick Maheo, Sœur Odile de la communauté des Augustines de Malétroit, Christian Boujard, Tristan Leroy et Jean-Claude Guil. Documentation Radio France, Véronique Le Faller et Antoine Villose. Archivina, Denis Forger. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Dominique Prusac et François Teste.